Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Hip Hop 360, l'émission qui fait le tour de la question.
Hello, 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 bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Hip Hop 360, b-boy, breaker, b-boy, b-girls. On est très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission de l'année, mais c'est, j'ai un peu envie de dire, la première vraie émission, parce que entre notre émission spéciale de rentrée, crossover Sadiqua et Hip Hop 360, en vrai, c'est la première fois de l'année qu'on revient à notre format normal. Voilà, donc j'espère que cette émission vous plaira et on a hâte d'avoir vos retours et on vous remercie pour les retours qu'on a déjà eus sur les émissions précédentes qui nous donnent de la force. Bon, comme d'habitude, je ne suis pas seule pour vous présenter cette émission. Je suis entourée d'une équipe de choc que je vais vous présenter dès maintenant. Ce soir, nous avons Chouchina qui est là.
Hello.
Bonsoir Chouchina.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En plus, il y a du temps qui est agréable.
Il fait beau en ce moment, ouais. La vie est belle. À côté de Chouchina, il y a Huguette.
Qui n'est pas d'accord.
Non, je ne suis pas du tout d'accord.
Ça y est, elle commence déjà.
Coucou, comment allez-vous?
Écoute, ça
heureux
va.
De vous retrouver.
Ouais, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, Huguette. Oui. Non, elle date, Huguette. Hein. Oh là là, laisse
tomber. Non, je suis contente d'être là.
Bon, mais c'est cool, trop bien. On a Fiona qui va nous retrouver bientôt. Vous savez, vous êtes habitués maintenant. Fiona, elle court partout. Et elle sera là d'ici peu pour participer à l'émission. Je vais tout de suite dire bonsoir à nos invités qu'on retrouvera dans un second temps. Mais on commence un peu à teaser. Nous avons avec nous les organisateurs du festival 94 BPM en la personne de Loïc.
Bonsoir.
Bonsoir Loïc.
Bonsoir, comment tu vas? Comment allez-vous?
On va bien. Alors Loïc, vous le connaissez mieux sous le nom de Kafir.
Entre autres, ouais.
Entre autres. Ah, il y a d'autres, vas-y.
Ah, il y en a pas mal. Hein.
Ah, bah, il faut que tu balances.
Allez, vas-y, lâche-les.
Ouais, j'aime bien. Bah, oui.
J'aime bien, genre, ils ont 25 AKA, tu vois. On sent qu'ils ont eu trop de vie.
Le Kafir, le Black Aloréa, le théoricien.
C'est vrai.
Qui le Kaf. Enfin, voilà, on s'amuse. En Égypte ancienne, on dit qu'un individu a 9 noms. Et je crois que dans le hip-hop, on n'est pas loin d'en approcher les 9. Au fur et à mesure de sa vie, on se rebaptise, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Quoi.
Oh, c'est beau.
Ok.
Quelle comparaison. Ça donne la note de l'émission.
Hey, il a mis la barre très haut là.
C'est ça.
Oh là là. On va devoir sortir un dictionnaire.
Je te jure.
Et alors là, en ce moment, t'es quoi?
En ce moment, je suis très épanoui.
Mais non, mais au niveau des noms.
Non, on avait compris.
Je suis pas les questions.
Il a annoncé en off qu'il allait faire les cours. Voilà, ça commence.
Oui. Il a dit qu'il allait saboter notre émission.
C'est ça. C'est ça. Je n'osais pas le dire. Je n'osais pas, mais bon.
On va pas le laisser faire.
Non, en ce moment, je suis. En ce moment, je suis bien. Non, j'ai pas. Mes noms correspondent pas à un état d'esprit, même si je suis un Gémeaux. Mais voilà, tu peux m'appeler comme tu veux, il y a pas de souci.
Bon, ce sera comment? On t'appelle comment ce soir?
Toi, tu m'appelles comment d'habitude?
Je suis pas Loïc, je pense.
Bah vas-y pour Loïc, ça me dérange pas.
Allez. Alors Loïc, t'es pas venu tout seul. Il y a Franck qui est parmi nous.
Bonsoir.
Bonsoir Franck.
Moi aussi, j'ai des AKA.
C'est exactement la question que j'allais poser. J'allais dire la même. J'ai dit, attends. On commence. Attends, vas-y, alors on t'écoute.
Comment il a fait son jaloux, lui?
C'est ça.
Moi aussi, il faut qu'il
place ses noms.
Moi aussi,
c'est
alias.
Alias, ce maire. Ce maire verlan de Mers, diminutif de mercenaire.
Ok. Voilà.
C'était mon blast de tagger depuis le collège, quoi.
Ok.
Et autrement de rappeur également, mais pas aussi connu que La Brigade ou autre, mais avec un peu de pratique. Voilà.
Ah, mais t'as qu'un seul.
T'as qu'un seul nom alors?
Non, j'en ai un autre, il y a Torti. Mais Torti, c'est parce que je taguais à côté. Non, une petite tortue.
Oh là, elle est nulle, là, celle-là. Là. Huguette, commence pas. Elle est nulle, là.
Non, c'est juste qu'à côté du Blaze, il y avait une tortue que j'aimais bien essaimer dans tout Paris. Okay. Sur les murs, ce qui m'a valu pas mal de problèmes, mais après, ce qui m'a fait arrêter également le tag et la pratique.
Alors, excuse-moi, tortue, tortie.
Oui, ouais, tout simple, avec un Y. T-O-R-T-Y.
Ok, ouais.
T'aimais bien le Y ?
C'est vite fait.
Bien. Ouais, c'est vite fait, on est d'accord. Hein, on est d'accord.
Je l'ai trouvé
au collège.
Tu vois,
nous, on a la brigade qui nous a bercé étant jeune, et puis à côté, on a une tortue.
Non, mais c'est sympa. Il y a, tu vois, tous les petits bonhommes que t'as dans le graphe et tout. C'était cool, je peux vous le faire après si vous voulez.
Ah ouais, moi, je veux bien. Moi j'aime bien les différents lettres.
Tu pourras la vendre plus tard, genre pièce collector.
Ouais, avec plaisir. Bon, alors on a un traditionnel tour de table en début d'émission de qui a fait quoi ces derniers temps. Et l'actualité était riche. J'ai envie de commencer par toi, Chouchine. Ah,
ça fait... Pourquoi toujours tu fais là ?
Je sais pas, peut-être parce que t'es allé au concert que tout le monde avait envie de voir.
Bah, tu sais quoi, je pensais à ça tout à l'heure et je pense qu'on va faire une chronique avec ma fille. Parce qu'à chaque fois que je l'emmène à des concerts, bon alors, pour la petite histoire, au mois de, c'est septembre, octobre, il y a eu le film du Wu-Tang qui est sorti.
Yes.
Moi, je l'ai emmené en avant-première.
Ouais.
Ma fille a 14 ans. Donc sur le coup, hop, elle a rencontré RZA en...
RZA Recta, j'étais
et
là.
Et elle est fan, tu vois. Elle, est, ouais, elle était fan. Et donc, sur le coup, épisode 2, la suite, le concert.
Ouais. En fait, on suit un peu les aventures de ta fille.
C'est ça. Et là où ça m'énerve, c'est que cette enfant de 14 ans, partout où elle va, elle est blindée de cadeaux. Elle est encore ressortie du concert avec 3 tonnes de cadeaux.
Mais Chouchina.
Mais j'en ai marre.
Chouchina.
Mais le concert, même elle a pété un plomb, en fait.
Ce qui nous intéresse.
C'est ce qui nous intéresse.
C'est pas les cadeaux.
C'est pas les cadeaux. Oui, mais moi, ça m'énerve à chaque fois.
Nous, on veut savoir s'ils ont fait le concert. Taf ou pas. Parce qu'il y avait plein de questionnements. Il y a autour de moi des personnes qui se sont posées, et moi-même, en vrai, j'en fais partie, qui se sont posées la question, est-ce que ça a vraiment du sens d'aller voir le Wu-Tang sans une partie des... Ouais. Enfin, sans certains membres, etc. Donc, dis-nous.
Alors,
ton ressenti.
Ça, c'est mon ressenti. Franchement, juste parce que c'est le Wu-Tang, il fallait y être et que c'était The Last. Donc, juste pour ça, il fallait être présent.
Alors, il y a Louis qui fait le signe du Wu-Tang quand même.
Wu-Tang forever.
Voilà, après, franchement, pour moi, ceux qui ont réellement mis le show, c'est Méthode. Déjà, quand Méthode, il est rentré, tout le monde a crié. Ma fille, la première, elle a dit, c'est mon mari.
Calme-toi, mon enfant, tu as 14 ans.
Je te jure, exactement. RZA, ils ont fait le show, c'était bien. Mais effectivement, les autres, tu vois qu'ils sont vieux, qu'ils ne sont plus dans le même move. Tu vois, on se demandait même, genre, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Tu vois, c'est...
Ils étaient un peu en dessous. Par
ils étaient un peu en dessous par rapport à Méthode et RZA. Et il y a eu beaucoup d'interludes. Il y a eu leur, ils nous ont fait des démos. Ils nous ont fait. Ils nous ont pitché leur film qui va sortir. À un moment, il y a eu un long passage aussi. Excusez-moi, parce que la vieillesse fait que j'ai des trous de mémoire, mais il y en a un qui est mort dernièrement aussi.
Power.
Voilà. Ils ont fait, sur le coup, un gros big
un
up.
Un hommage.
Un hommage. Et ils ont parlé aussi de tous les autres qui sont décédés. Ouais. Donc, c'était un mix des deux. On en a eu au moins pour notre argent. Ce n'était pas un concert qui a duré une heure. Donc, on en a quand même pour une heure et demie, deux heures. Donc, déjà, ça, c'était pas mal. Et mais dans l'ensemble, ouais. Enfin, pour moi, il fallait y être. Parce que c'était le Wu-Tang et que ça a quand même envoyé.
Il y a Vogue. Traduction, c'était pas terrible.
Il y a Vogue qui est passé.
Traduction, c'était pas ouf.
Il fallait, quand tu dis il fallait y être,
ouais, festif, il fallait y être
un peu. Ouf, ouais.
Bah, non, moi, j'ai aussi kiffé. Après, t'avais beaucoup de puristes, beaucoup d'anciens. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient là avec leurs enfants en mode transmission. La plupart, c'était quand même que des gars qui emmenaient leurs fils. Mais j'ai apprécié, en fait, ce côté-là. Et puis, alors, je ne sais pas si les jeunes y connaissaient. Bon, ma fille est rappée. Mais sur le coup, moi, j'ai aimé ce côté-là. Mais le show, moi, j'ai bien aimé quand même. Si, le show était là. Et moi, je n'ai pas été déçue. Tu sais, des fois, tu payes ta place et tu dis, ouais, ça ne valait pas. Si, moi, pour moi, oui.
Okay.
La salle était remplie à peu près 90-95%.
Ils étaient tous là ?
Ouais.
Ok.
Et donc, le fils d'Odibi alors ?
Moi, je l'ai vue, bah, on l'a vue sur le coup au mois de septembre-octobre. C'est la même.
Aussi. Non, à l'avant-première, ce n'était pas le fils de Dibi. C'est celui qui joue le rôle de fils de Dibi.
Non, c'est son fils.
Qui joue le rôle dans la série?
Ouais, c'est Young. C'est un acteur. Ouais. Mais il y avait Young Odibi, il était là aussi.
Okay, d'accord. Il était au concert.
Ouais. Ah oui.
C'est lui qui faisait les passages de
son
père.
C'est lui qui faisait les passages de son père.
Alors?
Il est impressionnant quand même dans le rôle de son père.
Ouais.
Il est impressionnant dans le rôle de son
père.
L'héritage du papa.
Ouais, c'est ça. Ouais. Pile aussi fou. Après, il est rentré dans le personnage. Il s'est fait à peu près les mêmes coupes. Il débarque un petit peu comme son daron sur scène. Non, il s'est vraiment imprégné du truc. Non, moi, franchement, je ne suis pas déçue du tout. Du tout.
Bon.
Après, il y avait le pop-up. J'y suis pas allée. Apparemment, il y avait beaucoup de monde sur ce qu'on m'a dit. Les orgas m'ont dit qu'il y avait énormément de monde. Ils ont même refusé à un moment.
Tu parles du pop-up store qu'ils ont fait,
Wu-Tang,
dans Paris.
Ouais, du Wu-Tang Experience.
Oui, non mais bon, tout ça.
Avec Projet X et tout ça, mais voilà.
Ok.
On s'en fout, mais non, ça va ensemble. Tout était orchestré comme ça.
On fera un débat sur tout ça.
Donc, pour ceux qui n'ont pas été, on a raté quelque chose. Quoi.
Pour moi, ouais, je pense, ouais.
C'est ce que dit Shushina, en tout cas.
Après, les avis sont partagés. Moi, je sais qu'après, on discutait derrière.
Oui, bon, après, on voulait ton ressenti. Toi, c'est tu nous dis il fallait y être.
Ouais.
OK. Bon, écoute.
T'es déçue de ne pas y avoir...
Non, en vrai, franchement, pas tant. Pas tant, parce que à la dernière minute, j'avais la possibilité d'y aller. Mm-hmm. Si vraiment j'avais voulu de ouf, j'y serais allée. Mais j'ai senti que j'avais pas la motive.
Non, c'est pas bien. Je suis pas d'accord avec toi.
Si
t'avais l'occasion, fallait y aller.
Mais oui.
Ah ouais, ça...
Non, mais c'est pas genre j'avais l'occasion, c'était prévu et tout ça. C'est au dernier moment, on me dit bon, bah je peux et tout. Et on me dit. J'ai regardé les pour et les contre, je me dis non. Moi, je les ai vus quelques fois, j'ai eu la chance de les voir quelques fois aux États-Unis. Voilà, c'est autre chose.
Et puis après, c'est pas la même ambiance là-dessus.
Je préfère rester là-dessus. Odibi, je l'avais vu au Carnaval de Londres. C'était incroyable.
Oui.
Un de mes meilleurs concerts de toute ma vie, hein, vraiment. Et j'en ai fait deux, trois. Un des meilleurs concerts de ma vie, c'est ODB au Carnaval de Londres.
Bah alors, ouais, fallait mieux rester là-dessus, alors. Ah ouais.
Je peux pas rester sur une expérience de Wu-Tang à Paris avec une salle à 90% et moi qui suis à 50% de mon potentiel sur le truc. Mais bon, après, bon, voilà. T'as donné ton point de vue et je le comprends tout à fait.
Wu-Tang forever.
Exactement.
Je ne pourrais jamais mal parler de Wu-Tang, c'est impossible.
Mais tu étais toi ou pas?
Non, j'étais pas. Mais moi, j'étais à Nas Wu-Tang l'année dernière.
Et ben voilà, moi j'étais à Nas Wu-Tang
et
aussi.
Et donc, cette année, je me suis dit, bon, moi j'avais bien kiffé. Franchement, j'avais bien kiffé. J'avais trouvé qu'ils avaient grave géré la scène, aussi bien Nas que Wu-Tang. Et cette année, non, j'avais pas la possibilité d'y aller. Mais normalement, par principe, j'aurais dû le faire, mais j'étais pas... Par principe, je devrais, parce que Wu-Tang, même en chaise roulante, s'ils font un concert, je devrais y aller par principe. Mais bon, voilà, j'ai dérogé au principe.
Si j'ai un truc à rajouter, j'ai trouvé ça dommage que le public ne soit pas aussi galvanisé que je m'attendais à plus, par contre, au niveau du public.
Ah.
Ouais. À certains moments, j'ai trouvé
l'année
ça.
L'année dernière, on était tous chauds bouillants.
Ouais, Nas Wu-Tang,
il y avait une ambiance, c'était
Nas
chaud
aussi.
De ouf.
Mais
en plus.
Non, même Wu-Tang, c'était. Ouais, hein, ouais. C'était. Non, c'est vrai que c'était ouf parce qu'il était tout seul et il a réussi à amener la foule. Mais Wu-Tang, il n'y avait pas méthode en plus, tu vois. Mais franchement, tu vois, moi, Raekwon, Ghostface, etc., moi, j'ai kiffé. Après, bon, le public de Wu-Tang, c'est le public de...
C'est les
nous,
anciens.
Hein.
Ouais, c'est nous, les anciens.
C'est des vieux, hein, donc il ne faut pas trop leur en demander non plus. Mais...
Je te jure, ils étaient déjà... Ouais, bref. Donc, bon, voilà. Sur ce point.
Bon, il y a un autre événement dont on voulait parler. On va clore cette page Wu-Tang. Bon, après, c'est le Wu-Tang, donc ça valait quand même la peine.
Il va
parsemer dans l'émission. Mais bon, c'est pas le sujet de l'émission, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On n'a pas prévu de faire une émission sur le Wu-Tang. Et donc ce soir, ODB est parmi nous. Non, puis en plus, il y a un événement dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission et qui a enfin eu lieu. Et donc on ne peut pas ne pas vous en parler. C'est le
Juste Debout.
Yes. Qui a eu lieu, ça fait déjà quoi, 2-3 semaines.
Ouais, à peu près, ouais.
Ça ferme, au moins 2 semaines. Bon, en tout cas, on y était. Hip-hop 360 était représenté dans la place. il paraît, au stade Pierre de Coubertin. Et donc, moi, j'y suis allée. Chouchinati est allée aussi.
Ouais.
Voilà. C'était sur 2 jours. Mm. Moi, j'ai le battle que j'ai pu voir dans son intégralité, donc c'est peut-être là-dessus que je vais plus m'arrêter, c'est le battle des kids.
Oh, j'allais... Exactly. Ouais.
Toi aussi, ouais. On n'en a même pas parlé.
C'est vrai.
On ne s'est pas concerté.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a un truc quand même qui est assez chouette. Après, peut-être c'est aussi nous qui, en prenant de l'âge, on voit les enfants comme ça, ça nous émeut de ouf, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai kiffé leur énergie, j'ai kiffé leur attitude. J'ai kiffé. Et puis, alors, le gagnant, incroyable, c'est un Chinois qui a gagné.
Ça m'étonne pas. Ouais, ils sont forts.
J'étais sûr.
Ah non, mais.
Chinois, j'apprends. C'est Japon aussi. Ouais.
Ah non, mais il avait une attitude incroyable. Il avait des power moves d'adulte.
C'est pas Third Bro.
Je me souviens plus du nom.
Allez. On va retrouver le nom.
C'est un B-boy.
Ouais.
Ouais.
Ça doit être Third Bro, je crois.
Il est incroyable. Et puis, j'ai vu qu'il était très mis en avant aussi. Mm. Et quand il est retourné, voilà, ça a beaucoup circulé en Chine. Bon, incroyable. Ouais, il faut que je retrouve le nom. Parce que c'était assez phénoménal. Tous ces battles, en fait, c'était un spectacle. T'avais la foule qui répondait au quart de tour, qui était là et ils faisaient le show. Et c'était pas forcément le cas pour tous les gamins. Après, ils avaient un petit bénéfice, auprès du public, c'est que dès qu'il y avait les petits qui venaient sur qui dansaient, ça amenait un truc en plus, et donc il y avait plus d'engouement de la part du public, qui est tout à fait normal. Et je trouvais ça chouette aussi, qui est un peu ce côté où tu sens que les gens sont plutôt derrière eux, etc. Mais après, de manière générale, sur l'événement, j'ai trouvé ça hyper chouette. J'ai vu plein d'anciens danseurs, et j'ai discuté avec certains qui me disaient qu'ils venaient tous les ans ou très régulièrement au Juste Debout. Donc, on voit que c'est vraiment un événement qui est installé, où les gens, ils ont envie d'y aller, où c'est un peu un rendez-vous qui s'est installé. Et ça fait super plaisir. Et donc, que cet événement-là tienne la route à chaque fois, que ça soit opérationnel et qu'en 20 ans, ils aient réussi à tenir le truc, c'est quand même rare en termes de longévité. Donc, ça, c'est à saluer. Il y a tant... Le fait de faire sur 2 jours, il y a quand même ce truc où, de temps en temps, il n'y avait pas suffisamment de monde, je trouvais, pour
avoir
un
public.
Truc, pour emmener, etc. C'est-à-dire que quand c'était à Bercy, le truc, c'est que c'est sur une journée, c'est concentré. Tous ceux qui veulent voir toutes les parties du show, ils sont là sur une journée. Alors que là, en 2 jours, les gens, ça a un peu dilué l'affluence de l'événement.
Moi, toi, tu y allais le samedi, moi, j'y suis allée le dimanche. Moi, je t'avoue que je ne me suis pas pressée pour y aller. J'ai dû débarquer là-bas vers, 16h, quelque chose comme ça. Et j'ai eu cette sensation de... Alors, dans l'événementiel ou autre, on voit souvent les anciens qui sont, on va dire, assis ou posés dans le game, comme on pourrait dire, arriver vers la fin. Et là, j'ai ressenti pareil, ce même côté, comme quand tu vas en événement ou en soirée où tu sais que ça ne sert à rien d'arriver au début, mais vaut mieux arriver vers la fin, parce que c'est là où c'est the best. J'ai eu cette sensation-là. Donc, bon, voilà, je suis arrivée vers 16h. C'était demi-finale et finale. Et effectivement, moi, ce que j'ai kiffé le plus, c'est la nouvelle génération. Et comme elle expliquait, la nouvelle génération, elle est comment dire, elle a un peps phénoménal. Et surtout, du côté asiatique, Chine, Japon, Corée, il y avait les trois. Franchement, mais un level, je me suis dit, mais on se prend une claque phénoménale par eux. Et la nouvelle génération, j'ai aimé cette énergie qu'ils dégageaient. Je les ai trouvés même plus enivrants que ceux qui sont là depuis longtemps. J'ai trouvé même pour certains une baisse de niveau ou pas forcément un fond dedans, alors que la nouvelle génération, j'ai surkiffé. Et puis, bon, après, j'ai fait ma vieille, je suis partie un peu tôt. Mais sur le coup, non, c'était bon.
Mais du coup, chez les kids, c'était all style. C'était pas que debout, quoi.
Non, ouais, le dimanche, c'était afro et... Et all style, ouais.
Ok, d'où le fait qu'il y avait un b-boy qui a gagné.
C'est ça.
Ok.
Sachant que c'était pas les mêmes épreuves le samedi et le dimanche.
Et samedi, c'était les qualifs et dimanche, les phases finales.
C'est ça. C'est ouais. ça.
Pas pour tous les battles. Le samedi, il y a eu la finale. Je me souviens plus parce que c'est un peu le fait justement de pas assister à toutes les parties. C'est un peu ce que je disais que ça dilue, etc. Donc moi, je me souviens de ce que j'ai vu. Et...
Il me semble avoir vu le debout hip-hop. C'était les Twins versus Cubics.
Ça, c'était le dimanche.
C'était dimanche.
Effectivement.
Moi, je suis partie juste avant, donc je n'ai pas vu, mais je l'ai vu après en replay. Mais oui, après, les Twins, tu sais qu'ils sont là, tu sais que ils vont aller vers la fin. Donc là, en fait, nous, pour les anciens, quand on regardait ça, on savait qu'il n'y avait pas de surprise, en fait. Quand on voyait les danseurs qui étaient annoncés, on savait déjà qui allait être à la fin. Donc, c'était plus, on regardait en mode show. Mais il n'y avait pas de surprise en disant, il y en a un qui va venir et qui va relever le défi. Alors que la nouvelle génération, tu avais ce côté-là. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti.
C'est vrai que c'est des monstres.
Ouais.
Ah ouais, c'est incroyable. Il y a un niveau qu'il n'y avait pas avant chez les kids, quoi.
C'est ça. Ah, ils sont déterminés.
Ouais, avant, ils avaient... je parlais notamment des power moves. Ils faisaient des power moves, mais bon, on voyait que ce n'était pas encore abouti et... On se dit, normal, c'est des enfants, ils vont progresser et il faut leur laisser. Mais là, ils sont opérationnels. À 10 ans, ils te sortent, ils te passent des couples sautés, des Thomas en détente et c'est nickel. Il n'y a rien qui dépasse, c'est propre. Oh, c'est incroyable. Au niveau technique, je trouve que ça tue. Et là où je trouve que ça a aussi progressé, c'est au niveau musicalité. J'avais discuté avec un danseur qui travaille beaucoup dans la transmission, etc. Et qui me disait que lui, son objectif, c'était pas d'entraîner des gymnastes, mais plutôt d'entraîner des danseurs. Et qu'en fait, il travaillait beaucoup sur le ressenti. Il y en a qui arrivaient, ils savaient faire des trucs. Et il travaillait avec eux sur le ressenti, etc. Et en tout cas, il y a une partie des gamins où je vois ce truc-là, que maintenant, ils écoutent la musique. Pas tous, on voit quand même que parmi les plus jeunes, il y en a encore certains qui sont dans de la technicité, mais il y en avait beaucoup qui avaient aussi cet aspect musicalité que je trouvais assez chouette. Enfin moi qui ai fait de la danse, je suis beaucoup plus sensible à ça c'est-à-dire qu'un danseur qui va être vraiment sur la musique, qui va aller chercher la petite cymbale et avec son mouvement va nous faire entendre ce truc qu'on n'avait pas entendu dans la musique. Si techniquement c'est pas parfait, je vais plus kiffer qu'un danseur qui est hyper carré, hyper c'est propre comme une machine de guerre et qui en fait il a préparé sa routine et quel que soit le morceau, il fait sa routine. Voilà.
Et qui n'est même pas forcément sur le son, des fois.
C'est ça, qui n'est pas calé.
Voilà, il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression.
C'est comme les rappeurs qui disent qu'ils font des freestyles et qui, au final, ils lisent un téléphone. C'est la même chose.
Ouais, il y a un peu de ça.
Après, le b-boying des années 90, c'était très, très power move. Mmh. Mais c'est vrai que là, maintenant, il faut être ultra complet pour pouvoir arriver en phase finale, en tout cas chez les b-boys. Mais en debout, on est obligatoirement dans la musicalité, mais... C'est vrai que là, maintenant, tous les danseurs, en plus de ça, avec tous les Asiatiques qui sont très, très techniques, ils peuvent plus se différencier s'ils n'ont pas la musicalité, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais là, sur un événement... parce que c'est vrai qu'on n'a pas, pour les personnes qui ne connaissent pas, mais le titre le dit par lui-même, le Juste Debout, le pari de départ, c'était de faire une compétition, justement, qui est consacrée à toutes ce qu'on appelait à l'époque les Funky Styles, et c'est-à-dire toutes les danses qui se dansent debout. Donc c'était pas du b-boying et c'est pas du b-boying de toute façon au Juste Debout. Mais bon, voilà, il y a parmi les gamins, il y en avait certains effectivement qui étaient plus des b-boys qui dansaient par ailleurs d'autres styles. Mais c'est vrai que pour revenir sur la finale avec les Twins et comment il s'appelle, c'est Cutie et
je me souviens plus là.
Bon, il y en a un, c'est Cutie, puis l'autre, j'ai oublié. Mais ils étaient monstrueux. Mais les quatre, en fait. Et moi, je l'ai re-regardé plusieurs fois après coup, les jours d'après, parce que, en fait, même si on savait qu'ils allaient être en finale, ils étaient tellement bons, c'est beau à voir. Et puis, il y a aussi dans le Juste Debout, il y a un truc qui est chouette, c'est qu'il y a une salle à côté de l'endroit où se passe le battle, où en fait, on peut aller danser. Et il y a des cercles de danse où tout le monde est là et tout le monde danse. Et ça, c'est un truc qui a toujours existé. Moi, à l'époque où j'étais allée en Allemagne au Battle of the Year à plusieurs éditions, eh ben, y avait le Battle of the Year. J'étais allée, par exemple, l'année où il y avait Wanted Posse qui avait gagné. Eh ben, ils étaient sur la scène, c'était les têtes d'affiche et puis tous les autres pays qui étaient représentés. Mais dans la salle, il y avait des danseurs. Il y avait le vagabond crew qui était là en train de défier d'autres gars. Et puis, à un moment donné, quand ils avaient fini le Wanted, eh ben, ils sont allés dans la fosse, ils ont défié d'autres gars, d'autres pays, ou même entre Français, etc. Il y avait plein de teams. Donc, qu'ils continuent à avoir cet esprit-là de partage, et ça se passe autant dans la salle que sur la scène, moi, c'est un truc auquel je suis assez sensible et qui me fait vraiment aimer ce type d'événement. Voilà. Quelque chose à ajouter, Chouchina ?
Non. Tout est dit.
Entre-temps, on a Fiona qui nous a rejoint.
Bonsoir.
Comment vas-tu, Fiona ?
Je suis KO, je suis fatiguée.
Comme d'hab.
Effectivement.
Elle dit ça en arrivant et puis après, elle va s'enflammer.
Ouais, mais en même temps, sortir des cours à 19h30 et devoir venir... Après, ça me plaît, mais le rythme est un peu compliqué parfois à tenir.
Merci Fiona de faire cet effort pour être parmi nous.
Mais de rien.
D'autant que on va parler donc maintenant que ce tour de table est terminé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de notre émission de ce soir.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Alors, donc, aujourd'hui, dans Hip Hop 360, on va parler de festival hip-hop. Parce que les festivals, c'est un moment clé dans la culture. C'est là que les disciplines se rencontrent. En tout cas, un des moments où les disciplines se rencontrent, que les artistes croisent leur public, une des occasions pour le faire. Et le hip-hop se vit en direct, dans toute son énergie. C'est aussi un espace particulier, avec ses propres codes, ses propres formats, ses propres publics. Chaque festival a aussi son identité, sa manière de faire, sa manière de nous faire vivre la culture. Et c'est justement ce qu'on souhaite explorer ce soir. Et on a donc, comme je vous l'avais dit au tout début de cette émission, pour en parler avec nous, les organisateurs du festival 94 BPM. Avant de leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent un petit peu comment se passe ce festival et qu'on parle un peu de l'organisation, de la lourde tâche qui incombe aux organisateurs de festivals, on va revenir sur un événement auquel Hip Hop 360 a eu la chance d'assister ce week-end à Aubervilliers, le 93 Hip Hop Connexion. Et notamment, Fiona, tu y étais. Est-ce que tu peux déjà nous donner un premier ressenti général sur cet événement et nous expliquer un petit peu ce qu'il en était?
Du coup, quand on est arrivé, il y avait plein d'événements. Donc, il y avait aussi des événements pour les petits. Il y avait des rollers. Enfin, il y avait une piste de rollers. Après, il y avait un chapiteau. Donc, c'est un peu le lieu principal où il y avait des battles, du coup.
Donc, ça se passait au fort d'Aubervilliers.
Ouais, c'est ça. Le point fort. L'événement, il a duré toute l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée.
21h.
Ouais, jusqu'à 21h. Moi, j'ai pas pu assister jusqu'à la fin, malheureusement. J'aurais bien voulu. Du coup, vers quelle heure ? Vers 15h, je crois. Il y avait un premier show où c'était des battles. Il y avait des beatboxers, des beatmakers, des danseurs. Et c'est... Non, des rappeurs aussi.
Et des DJ.
Ouais, des DJ aussi. Et ça se présentait sous forme de battle. Donc, il y avait deux équipes, celle de la Seine-Saint-Denis et celle de l'équipe
qui représentait la France.
Exactement. Et après, on devait choisir entre qui on préférait.
Et c'était le vote du public qui décidait du vainqueur entre chaque discipline. Et c'est vrai que la spécificité, un peu l'originalité de ce battle, c'est le fait que toutes les disciplines du hip-hop soient représentées. Chose qui, forcément, dans l'émission Hip-Hop 360, nous parle bien.
Oui, ça, c'est sûr. Et franchement, c'était pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde, parce que c'était quand même un super événement.
Au niveau public, ça manquait un peu de monde dans la salle.
Ouais. Et après, c'est un ressenti personnel, mais j'avais surtout l'impression que c'était pour divertir les enfants. Et j'aurais bien voulu... parce qu'après, il y avait des ateliers, donc ça, c'était bien. Mais j'aurais bien voulu que ce soit aussi un truc pour initier au hip-hop pour les jeunes. Enfin, je pense que c'était le but à la base, mais que ça n'a pas été assez exploité. Parce que genre, les parents, juste, ils faisaient en sorte d'amuser leurs enfants. Et je trouve ça un peu dommage.
Ok. Voilà ton ressenti général.
Mais franchement, l'événement, il était super.
Et après, y avait un deuxième show.
Ouais, j'ai pas pu y assister du coup.
Auquel tu n'as pas assisté, qui reprenait. Donc, c'est un événement qui était un peu l'aboutissement aussi d'un travail qui a été fait dans des établissements et un travail avec des artistes. Donc, le deuxième show, c'était un peu une forme de restitution. Et là, du coup, on a pu voir un petit peu les différents artistes qui avaient participé, dont beaucoup faisaient partie, effectivement, du premier show qui avait lieu à 15h du Battle. Et je partage une partie de ton ressenti. C'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est qu'une partie du public était très passive, très spectatrice des spectateurs, quelque part. Et moi, je l'analyse aussi comme le fait qu'il manquait un vrai animateur, un vrai MC sur scène pour présenter l'émission, pour présenter le spectacle. C'est que, en fait, c'est vraiment un métier de présenter des événements comme ceux-là. Et donc, c'est un peu ça qui manquait, parce que moi, je suis restée donc jusqu'à la fin. Il y avait, par exemple, Eclipse qui arrivait en tout dernier artiste de plateau. Donc là, il y avait vraiment encore moins de monde. Et lui, il a quand même un peu ce côté. Il sait aussi amener la scène. Enfin, Loïc, toi, tu connais bien ça, donc tu pourras en parler mieux que nous. Mais effectivement, quand on a un public qui est peu présent, il faut réussir à le ramener le plus possible vers soi. Eclipse, il a réussi à faire ça. Il a réussi à ramener le peu de public qui était présent dans la salle. Et finalement, il a retourné quelque chose qui, au départ, était un peu plombant, qui aurait pu donner quelque chose de très bof. Il a retourné dans un truc presque à se dire « Ouais, on est là, on est les vrais, on est les seuls qui sommes ensemble, on se donne de la force. » Et du coup, le show avait vraiment un truc en plus. Donc, ce dernier moment-là, je l'ai trouvé chouette. Et puis en plus, Eclipse, qui est un beatboxer, je le connaissais que sur la partie beatbox. Il a sorti un album de rap, donc ses textes. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller écouter son album. Il était assez, j'ai trouvé vraiment très percutant. Et puis bon, voilà, moi, il y avait aussi le côté battle de toutes les disciplines que je trouve vraiment chouette d'avoir réussi à mettre en place.
Puis les performances, franchement, elles étaient top.
Les performances étaient de qualité en plus. Il y avait Pedro le Kraken notamment. Bah tiens, d'ailleurs, je suis en train d'un peu de spoiler une partie de la présentation de quelques artistes dont on voulait vous parler. Mais on va les laisser eux-mêmes faire leur petite présentation et on revient juste après pour dire ce qu'il en est.
Bonjour, mon nom d'artiste c'est Pedro le Kraken, je suis beatmaker, finger drummer. C'est une discipline qui consiste à jouer tous les sons qu'on peut entendre sur une instrumentale, mais en live, voilà, sur des pads de MPC.
Je m'appelle Faye Abraz, je suis beatboxer et je viens de Bagnolet, dans 93.
Je m'appelle Kay Hypeman, c'est mon nom complet d'artiste du coup. J'ai 19 ans et je suis rappeur, beatmaker. Et dans le cadre de ce projet, je suis juste venu en tant que rappeur.
Donc, par la suite, on leur a posé des questions. Et nous...
Il y a une chose, toi notamment, ouais. Laquelle tu t'intéressais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire?
Donc, en tant que spectateur, on ne peut pas forcément se rendre compte de ce qu'eux ressentent. Et surtout avec leur expérience, du coup, en fait, on voulait savoir ce qu'eux, ils ressentaient sur scène. Surtout que ça fait longtemps qu'ils font ça. Et du coup, on leur a posé la question, tout simplement.
Bah, sur scène, c'est là où on peut s'exprimer le mieux. Moi, par exemple, je suis beatboxer. C'est là où je préfère être, c'est sur une scène. C'est là où j'arrive le mieux à m'exprimer avec ce que je fais, le beatbox.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'angoisser avant de monter ?
On angoisse toujours un petit peu, c'est le track. S'il n'y a pas de track, c'est pas normal. Donc il faut toujours... moi, je sais que je suis toujours un petit peu... J'ai envie de bien faire, en fait. C'est ça, le track. On a envie de bien faire. C'est un bon stress, voilà. C'est un stress qui est positif. Voilà, il faut... Je pense que, ouais, je suis tout le temps un petit peu pas angoissé, mais j'ai le track. Voilà. C'est toujours un petit peu angoissant au début. Les minutes qui précèdent la montée, l'arrivée sur scène. Mais après, on... Voilà, une fois lancé, disons que
on ressent plus trop la pression et on est tellement concentré qu'on n'a pas le temps d'y penser. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension de mal faire, de se tromper, de faire une erreur, parce que ça reste une discipline très technique et qui est vouée, qui est très propice aux erreurs. Voilà. Donc, il faut rester concentré et pas s'éparpiller. Donc, j'évite de trop stresser aussi.
Alors, sur scène, c'est assez particulier parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde devant nous. C'est pas des gens qui sont autour de toi comme quand tu es dans le métro et que c'est l'heure de pointe. Non, c'est vraiment différent. C'est vraiment être au centre de l'attention. Et c'est très bizarre au début. Mais moi, c'est pas du tout ma première scène. C'est quelque chose que je fais assez souvent maintenant. Ça fait partie de mon quotidien. Et on s'habitue à ça. Moi, par exemple, je suis plus du tout stressé avant d'aller sur scène. Ou quand je suis sur scène, j'ai plus peur de me rater ou de faire des erreurs. Ou je suis pas angoissé par ça. C'est vraiment devenu comme une seconde nature. Donc moi, je me sens vraiment super à l'aise en face du public. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, je monte sur scène depuis que je suis né, presque, parce que mon père est musicien. Et ça fait partie de ma vie, du coup. Quand il allait à des événements, depuis vraiment ma naissance, depuis que je suis dans la poussette, il m'emmenait partout avec lui. S'il avait un concert là-bas, il m'emmenait là-bas. S'il allait acheter du matériel autre part, il m'emmenait autre part. Donc j'ai vraiment suivi toute ma vie. Et je le remercie pour ça.
Ok, donc là c'était au niveau du ressenti sur scène, c'est un des aspects dont on avait envie de s'emparer sur cette performance-là. Est-ce que tu as une dernière, peut-être une dernière chose à nous dire sur l'événement, Fiona ?
Je trouve vraiment que c'était un événement super, c'est dommage que j'ai pas pu rester jusqu'à la fin. Franchement, s'il y avait d'autres événements comme ça, un peu plus proche de chez moi, j'irai vraiment tout le temps. Et j'espère pouvoir assister à d'autres événements là-bas.
Ok. Et ce qu'on peut peut-être aussi ajouter, c'est que c'était un événement qui était gratuit.
Donc, ouais, aussi.
C'était assez
accessible.
Du coup, c'était accessible, effectivement. Loïc, tu étais toi aussi dimanche.
Ouais, absolument, ouais.
Est-ce que tu veux nous donner ton ressenti?
Moi, j'ai participé à la mise en scène de la deuxième partie du spectacle, celui que tu 93 Hip Hop Exchange, celui auquel tu n'as pas pu assister. Le battle, je l'avais vu aussi. C'était donc c'est vraiment impressionnant parce qu'effectivement, il y a toutes les disciplines et d'avoir autant de protagonistes sur scène dans des disciplines différentes, c'est vraiment pas facile à organiser. Et en plus, à chaque fois, c'est des gens qui maîtrisent. C'est vraiment, on n'a pas fait le curriculum vitae de chacun des intervenants, mais il y a des gens qui sont très, 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 très experts dans leur discipline et qui ont une expérience vraiment, vraiment de longue date. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est vrai que l'affluence, c'est peut-être le point qui manquait pour parfaire cet événement. Il y avait beaucoup d'événements en simultané. Il y avait du roller à côté. Moi-même, je me suis laissé tenter par les rollers, je dois le reconnaître. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'avais vu les répètes et tout. Et puis, j'ai vu ce que ça donnait en live, notamment pour le battle et tout. Et le spectacle de la fin. Et j'ai trouvé que c'était... L'idée était super intéressante, super ambitieuse. Et vrai que c'est normalement quelque chose que tout le monde devrait voir.
Ouais, à renouveler.
Yep.
À renouveler. Très bien. Eh ben, puisque tu as la parole, ou peut-être que justement, puisque tu as eu la parole, on peut peut-être la donner à Franck pour nous présenter le
festival.
Et qui est
Tortue.
Est-ce qu'on l'appelle Tortue jusqu'à la fin de l'émission ?
Pas de problème, j'assume.
C'est vrai. Alors, Tortue, tu peux nous présenter le festival 94 BPM ?
Non, il n'y a pas de problème. 94 BPM, c'est né aussi de cette volonté de rassembler les disciplines. Parce qu'il y a beaucoup de festivals, effectivement, qui sont des festivals rap, ou sinon danse, ou sinon... Mais là, le fait de pouvoir mettre de la danse... aujourd'hui, cette année, un petit peu de danse, mais principalement du rap, des projections cinématographiques, une table ronde pour aussi le knowledge, parce que c'est un des éléments du hip-hop. Ça, c'est vraiment ce qui nous tenait à cœur.
Un aspect transmission.
Voilà.
Knowledge, ça veut dire connaissance.
Voilà.
Ah bon ? Attends, je vais le noter.
Donc transmission, échange, partage. Et je pense que c'est ça qui était important pour nous. Et de le localiser à Ivry, parce que Adnan, qui n'est pas là, et Loïc sont ivriens. Et que moi, j'ai grandi pas loin à Porte d'Ivry, quoi. Okay. C'est ça qui nous a motivés. Ensuite, y a aussi cet aspect important qui était donc dans la transmission, notamment entre les générations. Par exemple, au concert, on a des têtes d'affiche, mais aussi des jeunes générations qui se mélangent et qui chacun échange leur énergie.
Ouais.
Voilà. Quoi dire d'autre ?
94
BPM.
C'est pour 94, je pense, voilà. Déjà.
Pas
on
du
est
tout.
Dans le 94.
Pas du tout.
Il avait dit qu'il saboterait. Oui, mais moi, j'entends aussi 94 BPM. C'est un rythme un peu particulier qui nous rappelle...
Le boom-bap.
Voilà.
Donc, c'est vraiment ça aussi. C'est parce que je pense que c'est ce qui nous a réunis. C'est cet amour pour la musique, notamment des années 90, qui nous a vraiment mis dedans. Et ce tempo particulier qui est celui du boom bap, quoi.
Ok.
Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à la musique, au rap.
Ok. Donc, première présentation, on a ce festival qui se passe à Ivry. Les prochaines dates, parce que donc, ce qu'on n'a pas dit, mais il faut le dire, c'est que c'est la deuxième édition.
Absolument.
Donc, pour cette deuxième édition, elle aura lieu
à Ivry, comme la première.
Quand ?
Le 17, du 17 au 19 avril, donc le 17, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril de cette année.
Yes, donc Torti a commencé à nous donner une partie de la programmation. Tu disais qu'il y avait la danse notamment. Alors moi j'ai vu que vous avez prévu de projeter un film qui pour moi est une pépite, Faire kiffer les anges. Si jamais vous avez l'occasion d'aller au festival, s'il y a une chose à voir, désolé, hein, c'est très subjectif,
il
faut aller tout voir, mais s'il y a une chose pour moi à aller voir, c'est ce film, Faire kiffer les anges. C'est vraiment un truc qui m'a tellement marqué dans ma vie.
Et en
il
plus,
est incroyable.
Et en plus, on a la chance d'avoir en invité Big Girl Karima, d'Actuelle Force, qui sera après le film pour une discussion et qui jugera un petit échange entre, pour un 2v2 entre deux nouvelles générations, on va dire, du Box Crew et de Flow Killers.
Ok, alors ça, je ne l'avais pas vu, ce n'était pas marqué dans la programmation.
Non, mais on ne peut pas tout marquer parce qu'il y a plein de surprises. Tout au long du festival, il y a des surprises, il y a des gens qui vont venir qui ne sont pas annoncés.
Oh.
Et donc, il faut être là. Donc, on annonce le principal pour quand même que les gens sachent, puissent savoir à quoi s'attendre. Mais après, il y a effectivement... À chaque fois, des événements, des gens, des surprises, des guests, etc. etc. quoi.
Alors bon, il y a quand même des grosses têtes d'affiche au niveau Peura.
Alors, je ne sais pas s'ils ont des grosses têtes, mais ils sont connus. Et donc, effectivement, il y a...
il va te planter l'émission, il te l'a dit.
Il y a donc, pour le vendredi, on a, dans le désordre, Samir Hamad, Demi-Portion et Amnèse. Donc ça c'est le gros
de la soirée.
Voilà, ouais, c'est l'ensemble, c'est les trois têtes
du vendredi.
Et le samedi, on a dans le désordre également Cynic, Marcus Clan et
Saturns.
Et il y a Benjamin
Benjamin Epps, il vient pour la table ronde.
Ah, ok.
C'est ça qui est bien dans leur festival, c'est que tu as aussi ce côté débat,
ouais.
Autant l'année dernière que cette année. Et en plus, les sujets, ils sont hyper intéressants et les invités sont quand même assez pluridisciplinaires. Et c'est ça qui est bien. C'est pas que des rappeurs ou autres. Tu as vraiment différents profil.
Et c'est fait exprès.
Oui, je me doute. Ouais. Mais c'est ça qui enrichit la table ronde.
D'ailleurs, on a Bruce Ikanji cette année.
Oh oui, j'ai vu. Ouais. T'inquiète. J'ai vu Bruce.
Et justement, là, la question qui me vient, du coup, c'est est-ce qu'il y a un public particulier qui est visé ? Parce que 94 BPM, tu disais, référence au boom bap et tout ça. Mais en même temps, on voit que dans la programmation, il y a des anciens ou des installés et puis des plus jeunes, des plus... Voilà. Donc, comment vous l'avez réfléchi
Alors, on ne réfléchit pas en termes de public parce qu'on n'est pas, sur du marketing. On réfléchit vraiment sur ce que nous, on apprécie et ce qu'on aurait envie de voir en tant que spectateur. Je pense que c'est la meilleure démarche. Et donc, du coup, pour nous, c'est le hip-hop. On précise bien, pas juste le rap. Et donc, il faut qu'il y ait cet aspect un peu vindicatif ou il faut que tu apprennes quelque chose quand tu viens en 94 BPM, que ce soit... au concert, que ce soit à la table ronde, que ce soit au cinéma, mais il faut que quand tu sortes de là, tu aies appris quelque chose ou ça t'ait remémoré quelque chose, mais voilà, que tu sortes mieux que comment tu es rentré. Et voilà, et ce côté aussi politique qui nous, pour nous est impératif, la table ronde, c'est quand même un élément essentiel du festival.
Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de la table ronde ?
Ouais, l'intitulé, c'est « Le hip-hop peut-il encore déranger ?» Voilà, donc c'est une question qui me semble être très pertinente et donc qui sera débattue notamment avec Rokhaya Diallo, avec Bruce Kanji, Benjamin Epps et Thibaut de Longeville.
Thibaut de Longeville qui a réalisé notamment
la série sur DJ Mehdi, entre autres, mais qui aussi...
en tout cas, il est beaucoup connu pour ça.
Il est connu pour ça, il est connu pour avoir fait 360 aussi, une boîte de marketing. Donc, vous aurez de quoi discuter là-dessus. Et il participe également au Quai 54, qui est la manifestation de basket la plus importante in the world. plein d'autres choses, la pochette de 113, Prince de la Ville, etc. Mais bon, c'est un activiste du hip-hop qu'elle a depuis très très longtemps. Ouais. Et donc voilà, on va discuter de tout ça. Et c'est on aurait pu l'appeler le festival Hip-Hop and Politics, mais on s'est gardé de le faire. On a opté pour 94 BPM.
Ok. Mais donc, dans l'idée, ce serait plutôt ça, finalement. L'esprit, parce que en introduisant le sujet, je disais que chaque festival a un peu aussi sa couleur et tout. Ce serait un peu ça, hip-hop et politics, finalement, votre festival.
En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois, parce que c'est comme ça que j'ai abordé le hip-hop. Le hip-hop nous a donné une voix, nous a donné un moyen d'expression, nous a donné une scène, nous a donné un cinéma, nous a donné une littérature. Enfin, voilà, ça a vraiment été quelque chose qui nous a épanouis en tant qu'acteur, en tant que spectateur, en tant que fan, parce qu'avant d'être acteur, on est des spectateurs et des fans. Et ça a permis de nous épanouir culturellement, au niveau de son identité, etc. Et donc, c'est un peu cet aspect-là qu'on veut mettre en avant. Et comme on parle beaucoup de transmission dans cette émission, ben, c'est dire que le hip-hop, c'est ça. Et faire en sorte que il garde toujours un peu cet aspect culturel intéressant, en tout cas qui nous a touchés.
Et moi, je veux rebondir sur ça. C'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au Juste Debout, au Botti, tous ces cercles qui se font à côté ou quoi. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. Par exemple, l'année dernière, au cinéma, il y avait 8 Mile qui avait été projeté et qui avait été suivi par un battle entre des MC de Rap Contenders et qui a rassemblé en fait tout le public du cinéma autour du battle. Et il y a eu des ateliers qui ont été faits par le Kafir, à la fin duquel sont sortis des MC qui ont écrit des textes pour l'occasion et qui ont pu se produire devant le public du cinéma. Ça nous tient vraiment aussi à cœur, et c'est ce qui a été réitéré cette année avec des ateliers encore d'écriture qui durent depuis janvier et qui vont donner lieu à une restitution en première partie de chaque concert. Quoi.
Donc ça donne aussi l'opportunité aux jeunes de pouvoir se produire, peut-être pour la première fois, ou en tout cas des jeunes qui n'auraient pas forcément eu accès à ce type de scène.
Oui, parce que c'est pas plus vieux, mais j'ai un certain âge. Et les festivals, à l'époque, c'était vraiment l'occasion de mélanger les styles, mélanger des gens très renommés avec des gens pas connus. Et tu pouvais très aisément, sur une scène, je pense que ça se fait peut-être un peu plus dans la danse maintenant, mais avoir quelqu'un de très expérimenté avec un newcomer qui va rapper pour la première fois sur scène. Et c'est pour ça que nous, on tient à ce que dans le public, ça se mélange et que tout le monde ait accès et que, s'il y a quelqu'un qui veut monter sur scène, il va monter sur scène et puis ça posera aucun problème. Et puis ceux qui veulent voir Cynic, ils verront Cynic. Et en même temps qu'ils verront Cynic, ils verront des tout jeunes rappeurs. Et voilà, je pense que les festivals tels que nous, on les a connus avant, c'est à ça que ça servait également.
Ok, très bien. Ça nous fait une transition parfaite sur ce questionnement qu'on avait en ayant cette volonté de faire cette émission sur monter un festival hip-hop. Est-ce une mission impossible ou pas ? Fushina, je te laisse la parole, je crois que tu as un avis là-dessus.
Ouais, j'ai fait mes devoirs. Alors, habituellement, j'y vais en freestyle, mais là, j'ai voulu bien écrire mon texte.
Poser les choses.
Voilà. Alors, monter un festival hip-hop aujourd'hui, un festival aujourd'hui, c'est quoi ? Certes, une idée, une volonté de partager et de mettre en avant, mais c'est surtout un parcours du combattant. Et un festival hip-hop, là, on entre dans une autre dimension. Qu'on se le dise, et on le sait, que malgré son statut de musique la plus écoutée en France et à l'international, le hip-hop continue de se heurter à un mur invisible. Un mur fait de clichés, de méfiance, et comme le dit Youssoupha dans Menace de mort, les préjugés sont tenaces. Et parfois, je dirais même, constamment d'un sérieux manque de connaissances et de compréhension. Quand on parle de festival, on imagine du lien social, de la culture, du tourisme, pour certains. Quand on parle de festival hip-hop, on imagine directement gestion de risque, bruit, débordement, public difficile. Et ça commence dès les prémices du projet. On a nos idées, nos perspectives, nos envies, mais trouver un lieu, par exemple, sur le papier, on s'autorise tous les lieux, tout ce qu'on veut. Mais dans les faits, les réponses traînent, les conditions s'alourdissent, les autorisations deviennent un parcours administratif à rallonge. Pas de refus frontal, dans certains cas, mais une forme de filtrage discret et voire caché. Comme si le hip-hop devait encore prouver qu'il peut exister sans débordement. Comme s'il n'était pas déjà une culture structurée depuis plus de 40 ans. Et comme le rappelle Kerry James, on n'est pas condamné à l'échec. Ou son homologue Shai, rien ne m'arrête, j'ai grandi dans la tempête. Le hip-hop est en quête perpétuelle de légitimité. Et justement, cette question de légitimité, elle est partout. Dans les villes, les institutions, les subventions et même dans les réseaux. Par exemple, un festival de jazz ou d'électro arrive avec un écosystème déjà en place. Le hip-hop, lui, doit encore et toujours convaincre qu'il mérite sa place. Convaincre qu'il est professionnel, culturel et voire même respectable. Et bien sûr, il y a la question de l'argent, le nerf de la guerre. Booba le résume en quatre mots. Sans argent, t'es rien. Parce que monter un festival hip-hop aujourd'hui, c'est souvent fonctionner en équilibre instable, des budgets serrés, des demandes de subventions restreintes, des équipes multitâches entre passion et professionnalisation et des partenaires qu'il faut rassurer en permanence. Pour encore beaucoup de marques et voire même des institutions, quel que soit leur secteur d'activité, associer son image au hip-hop, ça reste encore perçu comme un choix audacieux. On écoute, on consomme, mais y être associé, c'est autre chose. Bien que le public d'aujourd'hui et demain est là, et c'est là tout le paradoxe. Kazé nous l'avait dit dans « Chez moi », on nous regarde, mais on ne nous écoute pas. Le hip-hop remplit les salles, génère des millions d'argent, des streams. Il influence la mode, la société, le monde, de l'audiovisuel et influence tout simplement le monde. Mais quand il s'agit de lui donner de l'espace, du financement, de la confiance, ça bloque encore. Et pourtant, le hip-hop, ce n'est pas qu'une programmation dit rap ou un énième battle de danse. C'est une culture complète et beaucoup soit l'oublient ou ne le savent pas. Petit rappel, les quatre piliers du hip-hop sont le MCing, le DJing, le graffiti et la danse. C'est une culture à part entière, un écosystème vivant, ancré dans les territoires, dans les maisons, capable de créer du lien là où d'autres formats ou cultures échouent. Tous les publics sont touchés, les jeunes, les anciens, il est mixte de tout horizon et classe sociale, et pour certains même éloignés des circuits culturels dits traditionnels. Alors forcément, les festivals hip-hop qui existent aujourd'hui ne sont pas là par hasard. Ils tiennent parce qu'il y a des équipes qui charbonnent, qui s'ouvrent, qui souvent bricolent, négocient, structurent. Comme dirait Nino dans son morceau Mills, on lâche rien. Qui sont à la fois programmateurs, producteurs, artistes, passionnés et parfois même à en devenir diplomates et politiciens. Parce qu'il faut expliquer, rassurer, traduire une culture qui paradoxalement est partout, mais encore mal comprise dans certains espaces, lieux et villes. Ce ne sont pas juste des événements, ce sont des prises de position. Comme on le scande souvent et encore plus avec l'actualité actuelle, qui ne prétend pas faire du rap sans prendre position ? Et je rajouterai en plus les mots de Médine, le silence est un choix. Des espaces où le hip-hop ne s'excuse pas d'exister, des espaces où il est central, légitime et complet. Et c'est peut-être ça la vraie force de ces festivals. Et pourtant, des festivals hip-hop, il y en a. Par exemple, le demi-festival à 7, qui fêtera ses 10 ans. cette année. Hip Hop Obsession à Nantes, l'original à Lyon. Certains existent depuis plus de 20 ans. D'autres, comme Yardland ou Golden Ghost, Coast, incarnent une nouvelle génération, plus visible, plus ambitieuse. Mais tous ont un point commun. Ils ont dû se battre pour exister et ils continuent de le faire. Alors non, ce n'est pas Mission Impossible pour répondre à ta question. Mais comme a dit encore Kerry James dans son morceau Post-Scriptum, plus le combat est grand, plus la victime est immense. Donc, pour terminer, je vous poserai cette question, qui est peut-être la vraie question aujourd'hui. Est-ce que le hip-hop doit encore s'adapter au système? Ou est-ce le système de rattraper le hip-hop?
Ouf, vous avez 2 heures.
À vos crayons. J'ai bien taffé ou pas? J'ai fait mes devoirs ou j'ai pas fait mes devoirs?
Bravo, bravo.
J'allais dire un peu la même chose, vous avez 2 heures.
Bon, toi qui voulais foutre le bordel, vas-y, fous le bordel.
Maintenant, on va le mettre dans la sauce.
Vas-y, on te met dans la sauce. Donc,
merci,
question.
Merci, Chouchina, pour cette superbe introduction. Et voilà, c'est vrai qu'on voulait prendre un deuxième temps dans cette discussion pour que vous nous aidiez à comprendre un peu les coulisses de l'organisation d'un festival. On a un peu parlé de tout le côté sympa, je pense, en tant qu'organisateur, les aspects de programmation, qui est-ce qu'on va faire venir, les échanges avec les artistes, ce qui va se passer. Et puis le jour même que les événements prennent lieu, ça doit être vraiment quelque chose de super chouette. Mais on s'imagine, ou pas, peut-être que nos auditeuristes ne se rendent pas compte, mais avant ça, il y a un sacré taf. Est-ce que c'est plus difficile d'organiser un festival hip-hop que tout autre événement, à votre avis? Déjà, on va commencer par ça.
Alors, ce serait prétentieux, puisqu'il faudrait que il aurait fallu que nous ayons organisé d'autres événements pour les comparer, mais dans le hip-hop, comme ça a été précisé, il y a 5 disciplines, pas 4.
Mais, oui, mais il y a les 4 piliers, on connaît la 5e.
Mais, et c'est ça, en fait, c'est d'essayer de programmer toutes ces disciplines de façon respectueuse et rigoureuse. Et comme Chouchina l'a dit à juste titre, l'argent étant le nerf de la guerre, ça te limite en fait. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de représenter toutes ces disciplines-là. Mais rapidement, on est dans une économie qui ne nous permet pas de faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais bon, ça, c'est le hip-hop. Hein. Je veux dire qu'on a commencé à danser sur des cartons, on a commencé à faire de la musique sur les instrumentaux des gens. Donc, c'est une culture qui est là pour s'adapter. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle perdure. Mais plus difficile, je ne sais pas, mais c'est un beau challenge. Et c'est vrai que dans une période, et je vais laisser la parole après, une période où le rap rafle toutes les têtes d'affiche de tous les gros festivals, je parle bien du rap, le hip-hop, lui, il est vraiment très, très en arrière. C'est-à-dire que quand on regarde tout, tu peux regarder n'importe quel festival qui se passe, que ce soit Wheel of Green, que ce soit Francofolies, que ce soit Les Ardentes ou Solidaise ou je ne sais quoi, tu vas avoir toujours des têtes d'affiche rap. Mais le hip-hop, il n'est pas représenté là-bas. Et donc, nous, notre devoir, c'est de mettre le hip-hop en avant et pas simplement le rap, quoi.
C'est vrai qu'il y a quelques DJ qui tirent un peu leur épingle du jeu et qui peuvent être dans des festivals. Des DJ rap, hein, j'entends. Je pense à Cut Killer, évidemment, qui est un des plus connus.
Mais il n'y a pas que les DJ aussi. Hein.
Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans les disciplines du hip-hop, il y a les rappeurs qui sont vraiment tout en haut. Mm-hmm. Quelques DJ qui tirent leur épingle du jeu, mais en dehors de ça, les autres disciplines ne sont pas représentées, effectivement. Tu voulais peut-être compléter la réponse, Franck ?
Oui, moi, je pense que c'est aussi lié au fait que l'aspect culturel, peut-être, d'un certain côté, s'est perdu, parce que là, ce n'est pas seulement l'esthétique ou seulement l'aspect, on va dire, financier, mais malheureusement, l'industrie fait que, on a, comme disait Loïc, le rap qui est bien mis en avant parce qu'il génère beaucoup, beaucoup d'argent. Et chacun dans ces domaines va générer de l'argent et va créer des microcosmes qui font que chaque discipline va se spécialiser, se professionnaliser. Mais le fait de le rassembler, ne serait-ce que, je sais pas, dans une soirée, une jam, quelque chose qui fait qu'il y a la musique, la danse, à côté il y a quelqu'un qui graffe comme sur un terrain vague dans les années 80, bah ça c'est beaucoup plus rare, voire inexistant. Donc c'est un peu cette passion-là qui nous a... Alors c'est pas de la nostalgie, mais disons que c'est ce qui nous a animés, qui fait qu'on veut le faire perdurer aujourd'hui et le transmettre. Donc je pense que c'est ça qui est au cœur de notre festival, en tout cas. Je parle pour nous. Pour les autres, je ne connais pas à ce point-là pour pouvoir en juger, quoi. Okay. Mais donc, c'est vraiment l'aspect culturel qu'il faut qu'on protège.
C'est ça. Parce que quand tu regardes aux États-Unis, la culture hip-hop, elle est ancrée. Mais en France, on n'a pas cette culture réelle hip-hop où tu vas avoir toute la story de la culture, quand tu regardes, on se plaint toujours que les anciens, ils ne font pas de transmission. Mais même si maintenant, ils s'y mettent, on n'a pas ce côté-là comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on veut faire un peu comme les Américains. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on a 10 ans de retard. Mais on n'est pas dans la même... vivance et dans la vivance de la culture, de comment on la vit au quotidien. Il y a ça aussi qui joue et qui fait qu'on ne retrouve pas ces block parties ou ces événements où tu vas avoir toutes les disciplines. Tu vas avoir, oui, que la danse ou que le rap, mais c'est tout.
Quand bien même aux États-Unis, il y a une grosse industrie, côté, il y a quand même des piliers qui sont là. Et quand on dit hip-hop, ça veut dire quelque chose.
C'est ça.
Par exemple, Common, il arrive dans un concert, il tape une coupole encore en 2025-26.
Même dans la rue, il le fait quand il rencontre des gens qui jamment dans la rue. Il prend le micro et...
Il freestyle.
Parce que c'est des gens... alors après, c'est un autre débat peut-être. Mais est-ce que la culture hip-hop, quand on dit une culture, c'est vraiment quelque chose, quoi. Et est-ce qu'en France, cette culture, on l'a réellement intégrée? Je ne pense pas. Je pense que le rap, il a pris le dessus. Moi, j'ai rencontré la culture hip-hop avec Sydney et depuis, je ne l'ai jamais lâché, quoi.
C'est ça.
Mais par contre, il y a des périodes de traversée du désert où tu te sens un peu perdu dans la ville parce que tu es le seul à être dans ton délire. Tu te fais insulter, etc. Et puis après, quand le rap français arrive et qu'il commence à emboucaner tout le monde et que tout le monde commence à avoir une oreille attentive, ça redevient à la mode. Mais est-ce qu'il y a la culture vraiment... En France, je ne pense pas. Et c'est d'ailleurs d'où la difficulté, parce que même le milieu de la danse, vous en parlez, vous le connaissez peut-être un peu mieux que moi, c'est des milieux qui fonctionnent comme des métaverses, en fait. Ils se croisent très, très rarement. C'est-à-dire que les rappeurs...
ils ne vont pas forcément
ils vont
se
pas
mélanger.
Vers avec les danseurs. Alors, c'est pas une volonté. Il n'y a pas une volonté d'être dans une ségrégation des disciplines, mais ça ne se mélange pas. Donc il y a des jeux debout qui se font et puis qui vont à Bercy, qui font plein de choses. Enfin, il y a plein d'autres festivals, il y a plein d'autres choses qui se font dans le graph, etc. Mais ça ne se mélange pas. Alors que théoriquement, si moi j'étais un rappeur et j'avais la possibilité de blinder, ce serait mon propos, ce serait de mettre des danseurs, des danseuses, un DJ, un graffeur sur le côté, un mec qui, pour dire c'est ça la culture, c'est ça qui fait que je suis là. Mais ça n'est pas fait et on ne peut pas le reprocher, peut-être parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le rap maintenant qui ne sont pas dans la culture hip-hop.
Alors, je reviens sur justement cette idée de cloisonnement. Donc, vous avez cette idée de festival et concrètement, comment ça se passe? Que là où je veux revenir aussi, c'est cette histoire de coulisses, de comment ça se passe, comment on crée un festival. Vous avez en tête de ce festival hip-hop. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir le monter? Comment ça se passe concrètement? On prend le 06 de Cynic, on dit c'était chaud pour faire un concert, et puis on prend le numéro de demi-portion, et tiens, il y a Cynic qui vient, t'es chaud pour venir aussi. Mais après, derrière, faut payer les artistes, faut payer les techniciens. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on veut monter un festival?
L'argent.
Il faut répondre à qui, il faut répondre à quand, il faut répondre à où et il faut répondre à comment. Donc, qui tu vas appeler, quels sont les artistes que tu vas solliciter ou les protagonistes que tu vas solliciter. Il y a des fois, nous on le fait à Ivry, donc notamment dans la salle du concert Le Hangar, qui a une capacité de 300 et quelques personnes. Et donc il y a des fois, il y a des noms qu'on va donner qu'on ne peut pas en fait, parce qu'on sait qu'on va attirer peut-être 10 fois ou 100 fois plus de personnes par rapport
à
la capacité de la salle.
Donc ça limite.
Ça limite, parce que des fois, ça nous est déjà arrivé de dire, nous on a la possibilité de faire venir un tel, et que la logistique du hangar va dire non, on ne peut pas gérer, parce que ça va attirer trop de monde.
Bouba, il attend.
Du coup, Bouba, il attend. Il était très peiné, il m'a dit qu'il ne s'en remettra pas. pas. Mais je lui dis, t'inquiète, Playboy, on va s'arranger pour l'année prochaine. Mais donc voilà, et d'autres
pourtant,
années...
Pourtant, il l'a dit, excuse-moi de t'interrompre, il a dit qu'il préférait les petites salles.
Ouais, quand il parle de petites salles, il parle de l'Accord Arena de Bercy quand même. Toutes proportions gardées. Il t'a dit que le Stade de France était trop
c'était
grand.
C'était trop grand, pas les mêmes petites salles. Hein.
Que Bercy, il était
Bercy
à l'aise.
Il préférait,
donc,
ouais.
Voilà, donc même avec tout le respect, tout l'amour que j'ai pour le hangar, on n'y est pas encore.
C'est ça.
Mais on ne désespère pas. Et ce que je voulais dire, c'est par exemple, tu vois, nous, pour la programmation musicale, on avait des idées d'artistes précisément. La programmation, elle était bouclée depuis décembre dernier. Mais il y a des artistes qui sont, notamment grâce à Booba, il y a des artistes qui sont relayés, etc. Et qu'au bout d'un moment, ils changent de prod, ils signent, etc. Et puis après, ils te disent, non, finalement, je ne peux pas venir parce que j'ai changé de producteur,
donc
parce
je
que
bloquée, ouais.
Je suis bloqué par tel festival, etc. etc. Et donc, ce que toi, alors peut-être qu'on a quelque chose pour découvrir les talents, mais en tout cas, ça fait partie des enjeux. Tu vois, des gens qui disent oui, tel jour, il dit « ouais, je viens », et puis au fur et à mesure, tu vois que la carrière monte, que les followers se prennent, que truc. Et puis, il y a la prod qui t'appelle, qui dit « non, finalement, ça ne va pas être possible parce qu'il est sur autre chose et nous, on ne fait pas ce genre de choses-là. » Et puis, il y a des managers
y a des
qui disent « moi, je gère plus, c'est la boîte qui tient, etc. »
Mais donc, dans ce que tu disais, quand même, on voit qu'il y a d'abord les lieux. Vous commencez déjà par avoir des lieux dans lesquels vous allez pouvoir faire l'événement et ça conditionne aussi qui vous pouvez inviter et qu'est-ce que vous pouvez organiser comme événement ?
Il faut des partenaires. Dans tous les cas de figure, il faut des partenaires. En ce qui nous concerne, ce que je vais préciser malgré tout, même si ce n'est pas quelque chose pour éluder tout équivoque, nous, on est bénévoles, en fait. Quand on fait ce festival-là, on ne touche absolument rien. C'est-à-dire que tout le monde est payé, sauf nous, pour être honnête avec vous.
D'où les passionnés multitâches.
Voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et oui, du coup, il faut que tu aies des partenaires pour les lieux, il faut que tu aies des partenaires pour les artistes, il faut que des partenaires tout le temps. Mais voilà, heureusement que malgré tout, il y a des gens qui sont encore dans cette passion-là, il y a des gens qui sont encore sincèrement des artistes. Et donc, c'est gérable, tu vois. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir Arsenic pour peut-être l'un de leurs derniers concerts, malheureusement, Calbo Rest in Peace. Mais... tu vois, ça s'est fait très rapidement. Tu vois, t'appelles, tac, ok, et c'est réglé. Tu vois, il n'y a même pas d'histoire de contrat, de quoi.
Tu veux dire que c'est pas la question du cachet qui entre en
ligne. Il y a des gens pour
compte.
Qui c'est
le
un
cachet,
business
c'est important,
ouais. et tout est à leur honneur parce que c'est leur c'est ce qui nourrit, c'est ce qui remplit leur frigo et tout. Et il y a d'autres gens pour qui ça va être très simple. Quoi. Tu vas le rencontrer, tu dis, bon, vas-y, on fait ça, ok, c'est telle date, vas-y, je regarde, ok, c'est réglé. Et il y en a d'autres où il faut passer par le booker, qui va passer par le manager, qui va le truc, etc. C'est des façons de faire que je ne critique pas parce que les deux sont valables, mais voilà. Et qu'au final...
Mais en tout cas, en tant qu'organisateur, ça rallonge les délais, ça rend les choses un peu plus complexes, j'imagine. Ça,
quand tu ne connais pas les gens et que tu dois passer par toute la machine qu'on appelle industrie, c'est plus difficile que quand tu es en direct. Je pense que même Franck peut en parler à travers sa page Décolonisons-nous. Il a beaucoup de liens directs avec les protagonistes, etc. Moi, de par mon passif musical aussi, j'ai des liens directs. Des fois, tu as des gens qui disent « ouais, vas-y, ça se fait », puis d'autres qui vont dire « non, il faut que tu passes par un test, je te donne un mail », et puis personne ne va te répondre. Et puis des fois, tu as le numéro personnel du mec qui ne te répond jamais. Quoi. Donc,
mais... Parce qu'il ne te connaît pas.
Ou parce qu'il n'a pas ton temps, tout simplement. C'est des choses qui peuvent se comprendre aussi. Mais on y arrive toujours.
Okay. Ouais, donc c'est vraiment la question du réseau qui est importante aussi, en tout cas dans notre festival, et qui nous a permis en fait, d'avoir cet aspect transverse. C'est, comme disait Loïc, lui, il a ses connaissances avec les artistes musicaux. Moi, à travers la page, qui était plus une page politique, j'ai pu penser la table ronde, les invités. Et en mélangeant toutes les connaissances qu'on a, on arrive à avoir quelque chose de riche et de complémentaire. Et ce qui est aussi important, je pense, c'est qu'on est déjà trois et que quand on a des décisions à prendre, bah, le chiffre impair fait qu'on avance. Des fois, voilà, quand on n'est pas d'accord et quand il y en a deux, on n'a plus rien à dire quand on est tout seul, quoi, du coup. Et il y a cet aspect-là, je pense. Et puis l'aspect, il ne faut pas lâcher l'affaire, par exemple, pour les passions qu'on a dans le hip-hop. Imaginons, j'ai un kiff particulier pour la danse que d'autres n'ont pas. Bah, si je lâche l'affaire, il n'y aura plus de danse dans le festival. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Ou alors, le rap, on veut juste avoir des têtes d'affiche qui buzzent et pas forcément mettre d'importance au texte, bah, on va peut-être avoir des artistes qui ne vont pas refléter l'état d'esprit qu'on veut. Donc, il y a une sorte de charte un peu... qui n'est pas dite, mais pour laquelle on a signé et qui fait qu'on avance dans un projet commun, quoi.
Moi, j'ai une question. Vous parlez du lieu, du hangar et par rapport à votre festival. Est-ce que c'est de volonté de rester au hangar ou est-ce que vous pensez, par exemple, à l'avenir, parce qu'il faut quand même penser à l'avenir, de changer de lieu et pourquoi pas faire en extérieur avec des scènes plus grandes pour pouvoir prendre des artistes avec une plus grande capacité? Vous y avez pensé?
Mais on y a pensé, on a déjà des propositions, même loin d'Ivry. Mm-hmm. On a déjà eu plusieurs propositions d'exporter le festival, et puis notamment, ou alors de le faire sur plusieurs villes, entre Ivry, Vitry, etc. Donc ouais, c'est des choses auxquelles on pense. Nous, on a vraiment, alors c'est peut-être l'âge qui fait ça, on y va vraiment
à tâtons,
pas à pas, step by step. Step by step, ça veut dire pas à pas. et donc
il voulait,
voilà. Mais...
Il voulait être prof d'anglais.
Faut choix. Mais
fallait qu'il la place subtilement.
Mais c'est vrai que le propos, c'est de grandir, en fait. C'est-à-dire de rendre le festival pérenne, bien évidemment, mais que chaque année, que les gens qui viennent puissent dire c'était mieux que l'année dernière. Mm. Donc, c'est notre propos. Alors, c'est pas forcément en... Mais c'est pouvoir le proposer à plus de monde. Forcément, quand t'as une salle avec 300 personnes, t'aimerais bien que... qu'il y ait 600 personnes, voire 1000, ou voire plus si on a des plus grandes salles. Pour exemple, l'année dernière, la table ronde s'était bouclée en 4 heures. Mmh. Et ça, je pense que c'est dû à une capacité réduite.
Après, la thématique, elle était forte aussi.
Bouclée en 4 heures, tu veux dire que le nombre de places pour les sold out
en 4 heures. Donc voilà, mais ça nous plaît aussi parce que c'est une config qui est particulière. Les artistes de l'année dernière, notamment Arsenic, Olkinri et Case, ils ont vraiment kiffé le concept parce que c'est un peu un retour aux sources, dans le sens où le public, il est proche de toi, c'est un public qui est varié et qui connaît le hip-hop, c'est-à-dire qui connaît la musique, mais qui connaît la culture, et donc tu as un autre rapport.
Ouais, les discussions, elles sont plus profondes, je trouve.
Effectivement, parce que dans le choix des intervenants, ben on a un expert en la matière avec Franck. C'est pas dire, on n'est pas juste là pour aligner les.
Il lève ses yeux.
Non, c'est vrai.
Il est étonné lui-même de ce label.
Ah bon, c'est moi.
Parce que c'est facile de faire venir les gens sur des têtes d'affiche. En vérité, tu prends 2-3 personnes un peu connues et puis, mais parce que sur la table ronde, elle est gratuite ou presque. Tu vois, le prix d'entrée pour la table ronde, c'est 2 € au départ. Donc, tu vois, on n'est pas là pour être riche sur une table ronde, mais il faut qu'une fois que les gens viennent assister à ces échanges, bah, que ce soit pertinent, quoi. Et donc, il ne s'agit pas de... L'année dernière, ça l'était...
Oui, mais la thématique, j'insiste, parce que la thématique était forte l'année dernière.
Elle est tout aussi forte cette année, hein.
Oui, je n'ai pas dit le contraire.
Et elle est moins forte que celle de l'année prochaine.
Oh.
Ah, donc il y a déjà...
Très bien.
Ben justement, ça nous intéresse un petit peu. Vous avez déjà commencé à nous parler un peu de la vision que vous avez pour l'avenir. Et donc, vous êtes déjà en train de réfléchir à ce qui va se faire l'année prochaine?
Alors, c'est prétentieux de dire qu'on réfléchit parce qu'il faut quand même qu'on assure le festival de cette année, rien n'est fait.
Il vient pas juste de dire la table ronde de l'année prochaine.
Ouais,
là.
Mais c'est des idées qu'on a. On a tout le temps des idées. Tu sais que même pour les artistes, on dit on aimerait bien prendre ça, ou même les intervenants. Il y a des intervenants qui nous disent j'aimerais bien participer, mais cette année je peux pas, là je suis en vacances. Là. Et donc voilà, c'est des gens qu'on garde et puis on se dit l'année prochaine, si tu as l'opportunité de venir, ça peut être intéressant. Et donc ça, mais le propos c'est quand même de se concentrer sur celle de sur le festival qui arrive le mois prochain. Et donc voilà, mais oui, on a pas mal d'idées, pas mal de pistes pour l'année d'après et les années d'après aussi, parce qu'il faut voir loin, sinon ça sert à rien. Mais comme je disais tout à l'heure, step by step, pour l'instant ça va être l'édition numéro 2 sur laquelle on va rester focus.
Moi, je donc te lance l'idée c'est de faire un festival finalement conçu pour durer, alors.
Exactement, comme l'aurait dit la Clica.
C'est ça. Voilà, merci. Alors, on va maintenant déjà on vous remercie d'avoir partagé tout ça avec nous et nous avoir un peu expliqué les envers du décor de votre festival et nous avoir, je pense, à beaucoup d'entre nous donné envie d'y assister. On va maintenant passer à l'agenda. C'est l'heure de l'agenda.
Hello, hello. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir, les mois à venir?
Plein de belles choses que tu nous proposes. On t'écoute.
Déjà, il y a une expo que je vais aller voir ce mercredi, avec des élèves d'ailleurs. Une expo de street art à la galerie Nature Forte, dans le 10e arrondissement. Et du coup, ils ont fait une expo qui se termine le 11 avril, hein, si vous voulez aller le voir, elle est gratuite. Une expo sur le street art autour de la nature. Donc, c'est gratuit. Et cette galerie, si on peut dire quelques mots, elle a été initiée par un photographe qui s'appelle Junk. Et elle a pour objectif de mettre en valeur le travail d'artistes montrant la nature. Voilà. Donc, si vous voulez y aller.
OK.
Nous avons également, alors, il y a un événement à la place, le 11 avril, de 14h à 19h. C'est un événement où la réservation est faite uniquement sur le site de
la place.
De la place. Et donc, on a le BPM qui revient pour la seconde édition. Alors, le BPM, c'est quoi? C'est le Battle Paradox Soul Movement. Et c'est un événement 100% danse, il y a du clubbing, et où la house music devient un terrain de jeu. Et puis il y a des corps qui s'animent, des styles et des personnalités. Au programme, il y a des concours chorégraphiques et du freestyle, avec une ambiance de folie, j'imagine.
Ben, on l'espère, en tout cas.
Ça, c'est le 11 avril. Qu'avons-nous d'autre? Ah oui, nous avons une grande artiste... Miss Banks, une artiste londonienne qui est en concert le 15 avril à la Belle Villoise, pardon. Et je ne sais pas si vous connaissez cette artiste, elle vient de Londres et elle fait un peu un mélange de rap et de afrobeat. Et elle se trop proclame même la boss bitch du sud de Londres.
Et, rien que ça.
Et du coup, on s'attend à ce qu'elle mette le feu dans ce magnifique lieu, d'autant plus qu'elle va porter, du coup, elle a sorti son dernier album qui est sorti en février, qui s'appelle South Aldean Lover Girl. Voilà. Nous avons également un artiste américain au Bataclan, le 4 avril, Freddie Gibbs.
Yes. Ah,
combien de rappeurs peuvent aujourd'hui se vanter d'avoir eu deux albums en collaboration avec l'illustre Majib? Ou trois albums en collaboration avec un autre illustre, comment il s'appelle, The Alchemist. Donc c'est donc lui qui sera là au Bataclan. Et cerise sur le gâteau, j'ai appris que la première partie sera assurée par Redvel, un des jeunes rappeurs les plus prometteurs de la scène alternative actuelle.
Redvel, ah, je connais pas.
Ouais.
Je note.
Il a d'ailleurs sorti, il paraît, un excellent album, d'après les critiques, qui s'appelle Sankofa. Voilà, à écouter.
Ok.
Donc ça, c'est le 4. Nous avons également un événement. Le 18 avril, on aura au 104, hein, c'est gratuit. Alors, préparez-vous à faire monter la température avec l'une des plus grandes fusions entre la culture urbaine et la salsa. Ça me rappelle des souvenirs, parce que je suis allée en Colombie, et du coup, ça m'a donné au mois de décembre. Et...
T'as vécu la fusion.
Et j'ai vécu la fusion. Et du coup, il y aura cet événement unique à son genre, donc la salsa qui rencontre le hip-hop. Donc, il y aura une explosion de style, de rythme et d'émotion.
C'est plutôt un événement danse, j'imagine.
Oui, c'est plutôt un événement danse. Donc, okay. Il y aura des performances scéniques, des battles spectaculaires. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un événement qui va célébrer la diversité, la créativité, le dialogue entre les cultures. Donc, tous les trumpistes ne seront pas invités au 4 à cet événement.
Je ne sais pas s'il y en a beaucoup au 104.
C'est ça. Quel autre événement ? Oui, le dimanche 12 avril, à la rue Fontaine-au-Roi, il y aura le collectif Black Lines.
Yes.
Alors, je ne sais pas si...
Collectif de graffeurs.
Collectif
très
de graffeurs.
Engagé.
Très engagé. On les, bon, ils s'appellent Black Lines, mais leur nom, c'est Lask et Itvan, c'est les deux personnes qui font partie du collectif. Ouais.
À l'initiative du projet.
À l'initiative du projet. Et donc là, il y aura leur nouvelle fresque engagée, dont le thème est, je crois, les contestations actuelles.
Ouais, bon, ils ont réalisé pas mal de fresques ces derniers temps qui ont été pas mal relayées sur les réseaux. Et puis, qu'on peut aller voir aussi sur Paris. Et en général, c'est plutôt sur des thématiques, notamment violence policière et ce genre de choses.
Donc, en général, c'est que des œuvres...
participatives.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Des fresques participatives. C'est ça. C'est pour ça qu'ils annoncent les événements en avance. C'est assez peu fréquent que des graffeurs disent « je vais graffer à tel endroit » et tout ça. Bon, après, dans notre époque, il y a pas mal de lieux qui sont un peu autorisés, mais pour le coup, c'est parce qu'ils font des fresques participatives.
Ils font des fresques, lorsque le pouvoir reste sourd aux revendications, ils passent par la voie de ces fresques pour montrer, voilà. Voilà.
On dit mur blanc, peuple muet.
C'est ça.
Donc, pas de mur blanc, le peuple parle. Super. J'ai un dernier événement. Allez, rapidement.
On a le Funky Festival, 3e édition, le 24 et 25 avril, au cabaret. Donc c'est, par contre, là, c'est à Marseille, hein, à la Cité Phocéenne. Et c'est un événement orchestré par le DJ Jell et la Funky Family, qui est l'un des pionniers du hip-hop en France. Et ça sera parrainé par Soprano.
C'est le Funky Festival, non ?
Oui,
c'est ça. Un très beau festival. DJ Jell, en plus, voilà, grosse référence. Et puis, je crois qu'eux, justement, ils sont vraiment dans cette idée d'avoir toutes les disciplines qui sont représentées dans leur événement. Et donc, ça, c'est assez chouette. Merci beaucoup pour cet agenda, Huguette. Pour la fin de cette émission, on va faire un tour de table... des différentes personnes qui ont participé à l'émission pour notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Qui est-ce qui a un coup de gueule ou un coup de cœur à passer ?
Moi, j'ai un coup de cœur. Regardez, je savais que tu étais regardé.
Parce qu'on sait déjà de quoi tu vas parler.
Mais oui.
Et potentiellement, il se peut que tu tu nous flingues notre timing.
Non. Vite fait, Caridas.
C'est coup de cœur ou coup de gueule ?
Non, pas un coup de gueule. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Hein ?
Explique ce que c'est.
Easy.
Alors, Caridas, pour ceux qui étaient dans une grotte depuis lundi.
Alors, pourtant, ça a teasé pas mal sur les réseaux. Donc, c'est sorti,
sorti lundi.
Lundi, ouais, c'est ça, lundi soir. Donc, sur le coup, c'est Jackie.
Des Neg Marron,
avec bien sûr Booba, puisque c'est KLM derrière. Donc Booba, t'avais Lino, Oxmo
Pucci,
et
Pete.
Le Black Mafioso.
Bacardi, voilà, j'avais un trou de mémoire, merci. Je sais pas pourquoi dans ma
Lino,
tête...
Lino, tu l'as cité ?
Aucun riz, je sais pas pourquoi j'avais aucun riz en tête, mais... Non, Pete. Et donc, les quatre réunis, ils ont commencé à parler hip-hop, bon...
Donc, dans une émission.
Dans une émission.
Réunion de malfaiteurs, comme dit...
C'est ça, une vraie réunion de malfaiteurs avec leurs cigares et leurs verres. Et sur le coup,
ça
moi,
j'ai... Ça dure une heure et demie, je crois.
Une heure. Comme ça. À une peu heure. Près une heure, une heure dix. C'est okay. L'épisode 1, donc il y a d'autres épisodes qui arrivent. Ils ont commencé déjà un peu à teaser les autres derrière.
Okay.
Moi, j'avais vu un peu les commentaires avant en disant « Oui, c'est encore les anciens qui vont parler, etc. » Mais j'ai trouvé que... Malgré que ça soit que les anciens, ce qu'ils disaient était pertinent, même s'il y avait un peu un monopole de Booba, mais ça, on s'y attendait.
Il est très mis en avant dans les propos.
Alors, moi, je ne veux pas parler du sujet. Je vous laisse aller... Non, parce que sinon, on va passer des heures. Je vous laisse vraiment aller le regarder, vous faire votre propre avis, parce qu'il y en a qui aiment Booba, d'autres qui ne l'aiment pas, qui vont partir avec un a priori en disant « voilà, c'est encore des anciens, ils vont se plaindre, etc. » Ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'ils parlent de la nouvelle génération et ils en parlent aussi en plus en bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller... Kavir, il me regarde déjà.
Il y en a un qui a écouté. Ah, qui a
mais oui, parce que tout à l'heure, on s'est compris quand il m'a fait...
Bien sûr. Oui, il a la petite rêve, donc c'est qu'il
voilà,
l'a écouté.
Voilà, c'est qu'il l'a vu. Mais non, allez vraiment le voir. Donc, ce n'est pas un coup de gueule ni un coup de cœur. C'est une émission, je pense, à voir et qui pourrait être bien pour la nouvelle génération aussi.
C'est un coup de Kugel.
Je sais pas. C'est chelou ton mot, mais voilà. En tout cas, c'est mon petit coup du moment.
Ok, merci Chouchina. Et ouais, y a sans doute que cette émission va faire couler beaucoup d'encre. Et on en reparlera peut-être dans une prochaine émission, qui sait.
Oui.
On voit que Chouchina, elle a envie. Fiona, est-ce que tu as un coup de cœur, un coup de gueule ?
Moi, j'ai que deux mots à dire. Miss Kitoko, c'est tout.
Miss Kitoko.
Bah, Théodora.
Ah oui, mais alors j'avais oublié que c'était la grande fan de Théodora. Ouais.
Alors, est-ce qu'on reste sur ces deux mots ou tu nous expliques un peu pourquoi c'est un coup de cœur ?
Je vous laisse juste aller écouter. Vous allez comprendre par vous-même.
Bon, elle a un gros coup de cœur alors pour Miss Kitoko. Merci beaucoup, Fiona, de nous aider à respecter notre timing. Alors moi, j'ai un coup de gueule par rapport à Gims. Qui, bon après, est-ce qu'on peut encore le mettre dans... Moi aussi, moi je considère que c'est quand même encore un rappeur. Donc je critique le rappeur qui invite sur scène la femme de Bernard Arnault. J'ai même pas retenu son nom, mais il se trouve qu'elle est pianiste. Et elle a été pointée du doigt ces derniers temps. Il y a un article de Blast qui a révélé qu'elle avait été interviewée sur France Inter. Et qu'il y avait des passages qui avaient été coupés au montage. Et dans ces passages coupés au montage, elle exprimait tout son mépris de classe. Où, bon, en gros, c'était vraiment à l'avenant, mais si je vous le fais en rapide, c'était un peu en mode, bah, les SDF, ils le veulent quand même un petit peu s'ils sont à la rue. Ces pauvres gens, ils me font de la peine, c'est sûr, mais bon, ils le veulent un peu quand même. Bon, elle n'a pas trop conscience de la chance qu'elle a eue de naître où elle était, de ses privilèges. Ok. Soit, je la laisse où elle est, mais que Gims invite ce genre de personnes, comme s'il n'y avait pas des pianistes issus de notre culture qui soient capables de faire ce qu'elle fait, voire aussi bien, voire mieux. Voilà, ça me rappelle un petit peu l'époque où MC Solar voulait être validé par la famille Gainsbourg ou citer Lacan dans ses chansons au lieu de citer des auteurs, des philosophes.
C'est Kafir qui applaudit hein, pour
un
peu.
Je suis tellement d'accord avec toi, tellement d'accord avec toi.
Et puis, si je peux me permettre, ça prouve aussi lui ou... Enfin, quelle est son opinion par rapport à ça ?
Oui. Bon, voilà, c'est un capitaliste, c'est sûr, mais là, aller vraiment au sommet de la hiérarchie pour nous écraser de leur suffisance. Et puis... Au sein de notre culture, moi, ça me fait un petit peu mal au cœur. Donc, bon, voilà, c'était mon gros coup de gueule. Tiens, est-ce que nos invités ont un coup de gueule pour terminer ?
Alors moi, j'aime pas les coups de gueule parce que j'ai
un coup de cœur, pardon.
Je préfère, comme dit Kenry, promote what you love instead of what you hate. Mais je vais quand même mettre un coup de gueule parce que.
Ah. Non, je sais pas s'il est dans. Ça, en fait, il voulait passer, il voulait placer,
non, mais
montrer
bien,
qu'il parle bien
c'est
anglais.
C'est bien de parler des choses positives, tu vois. Mais je vais rebondir un peu sur ce que t'as dit et ce serait pas un coup de gueule par rapport à l'intervention de DC's et du rap et qui disait qui est un peu un sentiment. Qui, moi, m'énerve. Alors, pas pour DC's, parce que c'est pas, j'ai pas envie de le prendre à partie lui particulièrement, mais il y a un sentiment un peu général des mecs qui rappent. Et quand ils arrivent à un certain âge, ils font style leur rap, c'est plus leur, pour leur truc. Alors qu'en réalité, c'est tout simplement qu'avant, ils avaient un rap de teenager, ou tu vois, et plein, il y a, moi, ça me révolte toujours parce que le rap, c'est juste un moyen d'expression, c'est juste un moyen, en fait. Et donc, c'est, tu en fais ce que tu as envie d'en faire. Et que si effectivement, dans tes premiers textes, tu parlais de drogue, tu étais misogyne et que tu disais n'importe quoi, bien évidemment, maintenant que tu as des enfants, tu les assumes plus. Mais si tu as toujours utilisé cette musique correctement, bah, tu n'as rien à te reprocher. Donc, mon coup de gueule, c'est ça, c'est arrêter d'utiliser le rap, de vous enrichir avec et après de faire comme si c'était une musique qui était ingrate, qui n'était pas... parce que ce n'est pas du tout vrai. C'est, la musique, elle est telle que vous la faites, quoi, tout simplement.
Merci, bah, je te renvoie le compliment, je suis tellement d'accord avec toi.
On est tous d'accord.
Franck, a.k.a. Torti.
A.k.a. Semer.
Ah, t'en as trouvé d'autres entre-temps ?
Non, je les ai cités tout à l'heure. Non, moi, en fait, c'est plutôt, on va dire, un encouragement pour mettre l'underground au centre de la culture, en tout cas tenter d'eux. Parce que c'est là que, en tout cas, moi, personnellement, je me retrouve le plus. Par exemple, les petites salles comme le hangar, tout ça, pour l'instant, même si on n'a pas encore plus, bah, moi, ça me suffit très pour le moment. Bon, je suis très content de l'ambiance que ça donne. Déplacez-vous, n'ayez pas la flemme. Des battles de danse, il y en a partout. Dans toute la France, toute l'Île-de-France, quand on cherche, on trouve les petits artistes, les petites salles, tout ça, c'est important et c'est là le vivier de la suite en fait de la culture hip-hop.
Exactement, c'est ce qu'on essaye de promouvoir dans cette émission, effectivement, de mettre en avant des spectacles vivants parce que ça se passe dehors, la culture elle est dans la rue, elle est pas sur les réseaux et donc je ne peux que abonder dans ton sens et ben, je pense que c'est une magnifique conclusion pour cette émission. Je vous remercie à toutes et tous d'y avoir participé.
Merci à toi. Merci de nous avoir invités. Merci.
Rendez-vous le mois prochain.
Bonne soirée.
Ciao.